Chers collègues, mesdames, messieurs, cher Dario Mantovani, mesdames, messieurs les intervenants, cher public, c'est pour moi un grand plaisir de pouvoir ouvrir ce colloque organisé par notre collègue Dario Mantovani en prolongement de son cours de la chaire Droit, Culture et Société de la Rome antique, dédié cette année à l'équité, histoire romaine du désir de justice. Ce colloque peut se tenir en présentiel. Ça, c'est quand même quelque chose de très agréable, bien que des restrictions sanitaires et des jauges soient encore en vigueur. La pandémie à laquelle nous sommes confrontés depuis plus d'une année a d'ailleurs montré l'actualité de la question de l'équité, question qui sera abordée durant ce colloque. L'équité est donc à la mode. Mais c'est aussi un concept d'autant plus flou que son utilisation est très répandue. Si les deux mots égalité et équité ont la même racine latine, leur sens n'en est pas moins différent. Si je prends le dictionnaire Larousse, l'équité est, autant je cite, la vertu de celui qui possède un sens naturel de la justice, impartial, que, citation, la justice morale ou naturelle, considérée indépendamment du droit en vigueur. L'égalité, selon la même référence, est, citation, le rapport entre individus, citoyens, égaux en droit et soumis aux mêmes obligations. De fait, l'équité s'apparente à une sorte d'égalité flexible, permettant des interprétations multiples. Que ce soit en fonction de la situation, de celui qui parle ou qui est concerné, d'impératifs divers, économiques, sociaux ou d'autres. Je parlais un peu du droit, j'ai un peu peur devant des juristes éminents, mais bon, enfin, je me lance. Tout droit comporte un ensemble de règles. Les règles juridiques sont une garantie essentielle de la justice, comme elles le sont de la liberté. La justice institutionnalisée est représentée avec un bandeau sur les yeux, vous l'avez un peu de dos ici. Elle ne doit pas voir les judiciables. Elle est en quelque sorte mécanique, comme en témoigne la balance qu'elle tient entre les mains. Pourtant, dans certains cas, l'application stricte du droit peut donner le sentiment d'une injustice. Summum ius, summum injuria, selon un adage attribué à Cicéron. La règle juridique peut négliger les aspirations contemporaines ou la situation des hommes et des femmes auxquels on l'appliquerait. Et c'est ici qu'intervient l'appel à l'équité, concept certes vague, mais qui met en lumière l'inévitable imperfection du droit. Elle peut être invoquée dans diverses circonstances pour compléter, corriger, humaniser le droit, l'économie, les parcours scolaires, professionnels, etc. L'équité considère les personnes auxquelles s'applique une règle et évalue quelles conséquences résulteraient pour elles de l'application stricte de cette règle. Permettez-moi de citer une disposition du Code fédéral suisse des obligations de 1912. L'article 442 permet au juge, lorsqu'une personne a causé involontairement un dommage, de réduire équitablement l'indemnité qu'elle devrait verser lorsque la réparation intégrale du dommage l'exposerait à la gêne. Compléter le droit, pourtant, ne suffit pas. Celui qui entreprend cette tâche est naturellement amené à le corriger, à le reformer, à le mettre en accord avec les besoins de la société ou les exigences de la conscience de l'époque. Permettez-moi à ce propos une réflexion sur la nécessité d'une actualisation constante de la loi qui se base sur deux textes bibliques. Dans la dernière partie du livre des Nombres, c'est le quatrième livre du Pentateuque, où Israël se trouve dans le désert, ils ont déjà reçu la loi, mais ils ne sont pas encore entrés dans le pays. Au chapitre 27, on raconte comment cinq filles d'un dénommé Tselophéade se présentent devant Moïse et réclament le droit d'héritage pour des femmes, car leur père est mort sans avoir eu des fils. Donc, notre père est mort dans le désert, il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père disparaîtrait-il au milieu de son clan parce qu'il n'a pas eu de fils? Donne-nous donc une possession parmi les frères de notre père. Il y a un problème parce que cette situation n'est pas prévue dans la loi. La loi est déjà promulguée. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors Moïse va interroger Yahvé sur la suite à donner à cette revendication. Et Yahvé, le Dieu d'Israël, donne raison à la demande des filles de Tselophéhat. Et il enjoint Moïse de transmettre une nouvelle loi. En disant, les filles de Tselophéhat ont raison, tu leur donneras une propriétaire en héritage comme aux frères de leur père, et tu leur transmettras l'héritage de leur père. Et tu diras aux fils d'Israël, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous transmettrez son héritage à sa fille, etc., etc. Donc ce sera pour les fils d'Israël une règle de droit conforme aux ordres que Yahvé a donnés à Moïse. Donc c'est très intéressant. On assiste ici à la fin du livre des Nombres, à la création d'une nouvelle loi qui n'est pas inclue dans les lois du Sinaï et qui reflète sans doute aussi un changement de statut des femmes vers la fin de l'époque perse ou au début de l'époque hellénistique, et qui introduit un principe d'équité dans la loi sur l'héritage. Mais ce n'est pas fini. Au dernier chapitre du livre des Nombres, la question revient, et cette nouvelle loi est maintenant contestée au nom d'une autre équité, par des membres de la tribu de Joseph à laquelle appartenait le dénommé Tselophéhat. Ceci, en fait, objecte à cette nouvelle loi que si les filles de Tselophéhat épousent des hommes appartenant à d'autres tribus, leurs terres passeront également à ces tribus, ce qui signifierait une perte économique pour la tribu de Joseph. Donc, je vous laisse lire. Yahvé a ordonné de donner les pays aux fils d'Israël en partageant par tirage au sort, et mon Seigneur a reçu de Yahvé l'ordre de donner le patrimoine de notre frère Tselophéhat à ses filles. Or, s'il épouse un homme d'une autre tribu, leur part sera retranchée du patrimoine de nos pères et s'ajouterait à celui de l'autre tribu. Yahvé et Moïse acceptent cet argument et modifient, encore une fois, la loi du chapitre 27. Des filles peuvent hériter maintenant du patrimoine à une condition, qu'elles se marient à l'intérieur de leur tribu. Comme ils avaient dit au début, les filles de Tselophéhat ont raison, maintenant c'est les fils de la tribu de Joseph qui ont raison. Ainsi, parmi les fils d'Israël, un patrimoine ne passera pas d'une tribu à l'autre. Les fils d'Israël resteront attachés chacun au patrimoine de la tribu de leur père. Donc toute fille qui héritera d'une part dans l'une des tribus des fils d'Israël ne pourra épouser qu'un homme d'un clan de la tribu de son père. Voilà. Donc vous avez en fait, à la fin, sans qu'il y ait une consultation directe de Yahvé, une nouvelle interprétation de la loi qui, en fait, reçoit une modification puisque maintenant la possibilité d'hériter est limitée à mariage à l'intérieur de la tribu. Donc le livre des Nombres en fait se termine ainsi, c'est le dernier chapitre de ce livre, par ce travail d'actualisation pour montrer la nécessité d'une interprétation constante de la loi au nom de l'équité. Voilà, l'objet du colloque qui est organisé par Dario Mantovani, aujourd'hui et demain, est de montrer justement la présence, la fortune, les transformations de la notion d'équité dans plusieurs domaines anciens et contemporains. On parlera de la rhétorique, à la philosophie, de la santé publique, à l'économie, de l'environnement, aux algorithmes. Et chaque intervenant est invité à faire comprendre à ses collègues d'autres domaines, quel sens ou quel rôle a pris la notion d'équité dans son propre champ, ce qui permettra de mieux cerner cette notion qui me semble très importante, mais pas toujours facile à saisir. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon colloque, et je donne maintenant la parole à Dominique Charpin qui va présider la première partie de ce colloque. Merci beaucoup.